bienvenue dans le podcast Business Club, le podcast du business sportif, marketing, opérations de com, entrepreneuriat. Nous allons passer en revue toutes les opérations de nos invités dans cette industrie. Athlètes en activité, sportifs reconvertis, chefs d'entreprise et toute personnalité gravitant autour de l'univers du sport business. Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau numéro du Business Club. On ne présente plus l'homme qui se trouve à mes côtés, mais je vais tout de même le faire. J'ai le plaisir d'être accompagné par Mam Ibrahan, fondateur de l'agence Creative Media Agency, pour animer ce podcast. Comment tu vas, Mam?
Ça va bien, et vous?
Ça va super, content de savoir que ça va. En ce mercredi, nous avons l'honneur de recevoir Maître Daniel Martel, avocat au barreau de Paris et de New York, spécialisé dans les technologies, les data, le divertissement et le sport. Autant de compétences, c'est fort. J'espère que j'ai rien oublié. Bonjour Maître, comment allez-vous?
Bonjour à tous, merci de me recevoir, ça va très bien. Et rien oublié, c'est une liste qui est longue mais exhaustive. Merci.
Ben merci à vous d'avoir répondu présent, d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de tout ce qui concerne le business sportif, j'aimerais que vous nous racontiez un peu votre parcours jusqu'ici et comment vous avez été amené à travailler ensemble.
Alors, mon parcours, parcours assez classique dans les métiers du droit. Donc, tout d'abord, je suis passé par la fac de droit à Paris, donc à Paris 2. Ensuite, après un master en droit des nouvelles technologies à l'université de Sceaux, j'ai été accepté à l'université de Fordham à New York.
Ok.
Donc, pour faire un master, un LLM, ça s'appelle, c'est un master pour les étrangers.
D'accord.
Donc, c'est un master d'un an, à la suite duquel j'ai passé le barreau de New York là-bas. Donc, je l'ai obtenu du premier coup. Et ensuite, donc, je suis passé un peu par une porte dérobée parce que j'ai passé l'équivalence du barreau de Paris pour être admis au barreau de Paris.
Okay.
Donc, ce que certains considèrent comme une porte un peu dérobée et d'autres... Donc, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, du coup, maintenant, je suis avocat au barreau de Paris et avocat au barreau de New York.
Et quelle est la plus grande différence en termes de formation entre... l'enseignement américain et l'enseignement français en termes de droit?
C'est paradoxal parce que l'enseignement français, il est, à mon sens, la qualité de l'enseignement, elle est plus élevée ici.
Okay.
C'est-à-dire que nous, en arrivant avec une certaine maturité, donc à un niveau master à New York, moi et les autres Français, on avait, je pense, on avait plus de facilité que des gens provenant d'autres pays avec d'autres formations.
Okay.
Même plus de facilité que les Américains, je trouvais. Et en revanche, la formation en elle-même, elle est plus pragmatique aux États-Unis, elle est plus tournée vers le professionnel comparée à la formation française qui est plus tournée vers l'académique.
D'accord. Ok. Et du coup, comment vous avez été amené à travailler ensemble alors?
Mamie Bra, je le connais depuis on se connaît depuis qu'on est assez jeune.
Okay.
On a grandi ensemble dans le 15e arrondissement,
okay,
donc de Paris. Et donc petit à petit, moi j'ai toujours. Lui il faisait sa carrière, moi je faisais la mienne. Mmh. Et lorsque j'ai été en mesure, du coup, une fois d'avoir prêté serment, lorsque j'ai été en mesure de l'accompagner, c'est assez naturellement qu'on a commencé à travailler ensemble. Lui il arrivait plus ou moins à la fin de sa carrière sportive. Et moi je commençais ma carrière professionnelle. Donc lui il était en reconversion. Ça tombait bien et donc on a commencé à travailler ensemble et ça se passe très bien jusqu'ici, sauf erreur de ma part.
Aucune erreur. Aucune erreur. Après, oui, voilà, ça s'est fait vraiment, vraiment naturellement. Et puis, il a pu voir aussi, je pense, de l'intérieur, le côté haut niveau, le côté aussi un peu, loisir qu'on pouvait aussi avoir et en mêlant justement le côté aussi professionnel. Donc les premiers contrats, les lectures de contrats, c'était vachement important. Le réseau aussi, parce que le réseau du sport français, sans se mentir, il est un peu consanguin, hein. C'est toutes les mêmes personnes. Quand tu vas sur des événements, des remises de trophées, c'est les mêmes marques, les mêmes personnes, ça bouge pas trop. Et donc voilà, on est arrivé avec une vision un peu différente. Lui, il a un parcours qui est aussi assez atypique, parce qu'avoir le barreau de New York, c'est pas tout le monde qui peut dire qui l'a ou qui le passe déjà. Donc voilà, ça s'est fait naturellement et on est très content de pouvoir collaborer ensemble et sur divers sujets et voilà.
Ok, ça m'amène à un sujet que je voulais aborder après, mais vu qu'on est dedans, on va l'aborder tout de suite. À quel moment dans ta carrière tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'être accompagné?
À quel moment? Je pense assez tôt, puisque Moi, très rapidement, j'ai eu l'obligation, entre guillemets, de me dire les études, ça va être hyper important. J'ai été confronté à des problématiques de sportifs de haut niveau qui demandent une réelle réflexion et un accompagnement pour ne pas se tromper. Le réseau ou les choix, c'est-à-dire que souvent on dit oui, concentre-toi sur le sport et tu feras tes études après. Ça, je pense que c'est une erreur qui est fatale, parce que pour certaines personnes, si tu finis ta carrière à 35 ans, que tu retournes en études, je pense que c'est hyper difficile. Donc du coup, j'ai souvent bénéficié de bons conseils, et comme dans le sport comme dans la vie, je pense que les rencontres, c'est quelque chose de primordial. Et cet accompagnement a été fait par des personnes, parfois par des mots, parfois par des échanges qui ont fait que voilà, j'ai eu cet accompagnement par d'autres personnes, mon parrain, mes parents, mon coach. Et après, sur le côté juridique, même après Daniel. Donc du coup, ça, c'est quelque chose d'important.
Il y a vraiment l'importance du cadre quand on est sportif. Parmi ce que tu as connu, est-ce que tu as l'impression que tout le monde était aussi éveillé que toi sur ce sujet-là, ou c'est vraiment propre à ta personnalité?
Non, je pense que c'est propre à moi et à mon environnement. Après, Daniel a dit quelque chose de très important tout à l'heure. On vient du 15e arrondissement. C'est un arrondissement qui est très familial. Il y a de très grosses écoles là-bas, et ça nous a permis d'avoir assez rapidement une ouverture d'esprit. Le 15e arrondissement, la population est plus importante qu'à Bordeaux. Donc, quand tu es dans une école avec tant de monde ou tant de personnes qui évoluent dans divers milieux, ça t'offre la perspective de pouvoir tout voir. On a beaucoup voyagé aussi grâce au sport, et c'était important d'être éveillé pour l'après, et anticiper, avoir un coup d'avance. Je pense que dans ce qu'on fait, il faut toujours avoir un coup d'avance dans la gestion de contrat, dans l'accompagnement de talents. Il faut pas se retrouver au dépourvu comme ça du jour au lendemain, parce qu'on sait pas, on n'a pas anticipé une situation. Donc voilà.
Ok, super. Je vais recentrer le débat autour du sport et du business. Donc, j'aimerais savoir, maître, dans quelle mesure vous intervenez auprès des sportifs ou dans des projets liés à cet univers-là ?
Alors moi, j'interviens à différents niveaux. Pour ce qui est des sportifs, dans un premier temps, j'interviens dans le cadre du sport, donc dans le cadre de la pratique sportive, dans tous les contrats et dans sur tous les aspects juridiques qui entourent la pratique sportive du joueur. Donc dans un premier temps, la négociation, la revue, et toutes les discussions qui peuvent entourer le contrat de travail du joueur avec le club ou la fédération sportive.
D'accord.
Les contrats ensuite qui sont liés à la pratique sportive, donc de manière plus étendue, les contrats de partenariat, donc ce qu'on appelle les contrats de sponsoring, avec les marques qui vont entourer le joueur et qui vont l'accompagner dans sa pratique. Je pense aux marques d'équipementiers notamment. Mmh. Ensuite, dans ce qu'on appelle l'extra-sportif, on va avoir toute la partie liée au contrat d'image du joueur, donc l'utilisation de l'image, les différents contrats de partenariat avec des marques en dehors du cadre sportif et en dehors de l'univers du sport. Et ensuite, du coup, le troisième aspect, c'est la défense des intérêts du joueur, donc que ce soit vis-à-vis de l'utilisation de son image, donc une utilisation illégale de son image, vis-à-vis de des droits de propriété intellectuelle qu'il va obtenir au cours de sa carrière, que ce soit attaché à sa personne ou non, et toutes les initiatives extrasportives que le joueur va mener en tant que personne physique, puisque les joueurs, je pense notamment au football, mais de manière générale, les sportifs, ils vont acquérir un certain patrimoine au cours de leur carrière, patrimoine qu'ils vont pouvoir faire fructifier en dehors du sport. Et donc là, moi, je les accompagne également dans toutes leurs initiatives d'investissement, par exemple, ou autre.
Vous parlez de contrat de partenariat. Quelle est la nuance entre le contrat de partenariat et le contrat de sponsoring ? Est-ce qu'il y en a une déjà, ou c'est la même chose globalement ?
Non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le sport, il y a beaucoup d'abus de langage.
Okay.
Donc, dans le droit de manière générale, parce que c'est un secteur d'activité qui est très particulier et qui est très, on va dire, comment dire ? C'est un secteur d'activité qui est très particulier et qui souffre ou qui bénéficie, ça dépend d'où on se place, de beaucoup de techniques. Donc le contrat de partenariat, si vous voulez, c'est un contrat qui n'est pas nommé dans le code civil. Donc le contrat de sponsoring, ça veut rien dire en soi. Le sponsoring, c'est ce que nous on appelle banalement un joueur qui va représenter une marque ou autre, qui va être sponsorisé. Mais en soi, c'est un contrat de partenariat, ou okay. ça peut être un contrat d'utilisation d'image, ça peut être un contrat de cession, un contrat de licence. Le contrat de sponsoring, ça englobe du coup beaucoup de contrats différents.
Ok.
Et c'est un abus de langage en soi.
D'accord. Mais finalement, vos services, ils viennent compléter le rôle d'un agent ou ça peut être une alternative au rôle d'agent?
Alors bon, je vais essayer de répondre clairement pour pas fâcher ni les agents ni les avocats ni les avocats mandataires sportifs. Mais donc en fait, si vous voulez, moi en tout cas je considère, si c'est ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que chacun a son métier et chacun doit rester à sa place entre guillemets, et que ce sont des métiers qui sont complémentaires, dans le sens où lorsque vous avez un problème chez vous, vous appelez l'électricien. Si l'électricien ici connaît en plomberie, il peut vous aider à débrancher un tuyau, mais pour autant c'est pas son travail à lui. Dans notre cas, c'est plus ou moins similaire, parce qu'on a affaire, du coup il y a plusieurs acteurs en fait autour du sportif. Il y a l'agent, son travail c'est de trouver des contrats aux sportifs, de négocier et de prospecter des contrats de travail pour le sportif.
Okay.
Le rôle du coup du manager, c'est de gérer la carrière sportive de l'athlète, de l'aider dans ses choix, que ce soit sportif ou extrasportif, mais lui il a un rôle plus personnel. Ensuite, il y a l'avocat. Lui, son rôle, il est plus juridique. Du coup, nous, on a une expertise juridique que n'ont ni l'agent ni le manager. En revanche, nous, étant avocat, on n'est pas habilité à la base. On n'est pas habilité à prospecter au nom du joueur. Ça, c'est quelque chose que nous, en tant qu'avocat, on n'a pas le droit de faire.
Okay.
Ensuite, il y a la distinction. Donc, il y a l'avocat mandataire sportif. Donc, ça, c'est une compétence qu'on peut obtenir auprès du barreau de Paris. On peut se déclarer mandataire sportif. C'est une déclaration qu'on doit faire auprès du barreau. Et donc, une fois qu'on est avocat mandataire sportif, on a le droit d'être mandaté, on est mandaté par le joueur et on a le droit de représenter le joueur dans les négociations.
Ok.
Pour autant, et c'est là qu'en fait la zone est un peu grise, c'est que nous, parfois, en tant qu'avocat, on va être contacté par des clubs, on va être contacté par des fédérations pour négocier et conclure des contrats pour notre sportif, notre athlète, le joueur de foot ou le sportif de manière générale. Et là, c'est un peu là que le bât blesse, parce que les agents, ils vont considérer qu'on fait leur travail à leur place.
Ouais.
Nous, on va considérer qu'on fait notre travail de revue de contrat et de négociation. C'est un peu là, en fait, que la discussion se pose. Là, en ce moment, il y a un grand débat autour du rôle de chacun, donc notamment de l'avocat mandataire sportif et du rôle de l'agent. Il y a un débat qui est judiciaire également, puisqu'il y a, il y a un dossier qui a été porté, il y a une affaire qui a été portée auprès du tribunal de grande instance et ensuite là, de la cour d'appel.
Okay.
Donc, c'est un dossier qui est en cours, mais qui va sûrement nous permettre à nous de bien encadrer et de bien déterminer le rôle de chacun. Donc on attend la décision du juge et on verra ensuite comment on avance par la suite, nous en tant qu'avocats, mandataires sportifs, eux en tant qu'agents et les managers de leur côté également, qui de toute manière vont être impactés par cette décision.
J'ai justement posé cette question parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de... Bon, je vais prendre l'exemple du football, mais je pense que dans d'autres disciplines, ça doit être à peu près la même chose. Des athlètes qui font appel au service d'avocats. Pourquoi certains athlètes font ce genre de choix, par exemple, de ne plus passer par un agent, par un manager, et directement passer par le mandataire sportif dont vous parliez tout à l'heure?
Je pense que c'est un changement qui est lié à la culture et à au développement technologique et du sport qui est le nôtre aujourd'hui en 2022. À mon sens, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, c'est pas les jeunes d'il y a 15 ans. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont accès à tellement d'informations, que ce soit via les réseaux sociaux, via Internet. Et ça, c'est un constat qu'on peut faire même en dehors du sport. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils pensent qu'ils sont capables de tout faire eux-mêmes. Donc, et c'est une bonne chose parce que ça permet à beaucoup de jeunes de se développer et à développer une activité qu'ils auraient peut-être pas pu faire par le passé. Mais pour autant, ça peut réduire aussi l'impact des professionnels, que ce soit les agents ou les avocats, parce que les gens vont dire « bon bah moi je peux me débrouiller tout seul
».
Donc là, typiquement, dans le cadre de... Et je pense qu'il ne faut pas que penser au football, parce qu'effectivement le football c'est le sport qui draine le plus d'activités économiques, mais de manière générale, les jeunes, donc pour répondre à votre question sur le football, les jeunes aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont penser « j'ai pas nécessairement besoin d'un agent parce que j'ai une famille qui m'accompagne ». Donc en général, c'est ça le schéma. C'est papa et maman, ou grand frère ou grande sœur, ou pour les plus téméraires, un ami ou cousin ou autre. Mais en général, il y a un cadre, un socle familial, ou en tout cas proche, qui vont considérer qu'ils n'ont pas besoin d'un agent, souvent pas pour des raisons économiques, pour dire bah, « moi, je n'ai pas besoin de reverser 10% des opérations que je fais grâce aux joueurs à un agent, je n'ai pas besoin ». En revanche, l'avocat, on va toujours en avoir besoin parce qu'il y a une composante juridique, une composante de spécialité, de technique que la famille ne pourra pas gérer.
D'accord.
Donc, l'agent, et je pense que parfois c'est une erreur, parce que l'agent, il a aussi une qualité, il a une compétence qui est, à mon sens, irremplaçable, et que parfois la famille ne peut pas faire, la famille est limitée dans l'opération que pourrait faire l'agent. Pour autant, je peux comprendre que certains essayent de réduire au maximum le nombre d'intermédiaires, le nombre d'interlocuteurs, okay. et de garder que les interlocuteurs, on va dire, nécessaires et pour lesquels, enfin, desquels ils ne peuvent pas se passer, entre guillemets.
Ok. Toi-même, par exemple, quel regard tu portes sur ça ? Est-ce que tu vois justement ça auprès de tes jeunes talents ? Le côté vouloir tout faire, vouloir réduire les intermédiaires, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques beaucoup ou...
Bah, c'est un vrai sujet puisque, comme vous l'avez dit, un agent ne peut pas faire ce qu'un avocat fait et un avocat ne peut pas forcément faire certaines choses qu'un agent peut faire. Dans le sens où, et ce qu'on a nous développé ces derniers mois, c'est que Daniel a sa partie, j'ai la mienne. Des fois, on a pu avoir des problématiques en termes de calendrier, en termes de temps, sur la partie pure performance, sur la partie pure image, sur aussi les échanges de bonnes pensées, j'ai envie de dire. Un garçon comme William Gomis, par exemple, qui fait du MMA, quand il faut l'accompagner ou aller aux États-Unis sur une période courte, faire les bons choix en termes d'environnement, en termes d'entraînement, c'est pas forcément le sujet de Daniel, mais on va échanger quand même autour de tout ça pour trouver la meilleure solution. Et la solution, il y a aussi le vécu, il y a aussi le ressenti d'un athlète ou d'un client qui est ok, t'as fait du haut niveau, tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce qu'il y a à faire au niveau de la récup et autres, et la partie juridique. C'est la sienne, on cherche pas à interférer, on fait en sorte que voilà, c'est bien agencé pour que chacun a son domaine et ne fasse pas tout.
Et la personne n'empiète sur les plates-bandes de l'autre.
Exactement, et ce qu'on peut voir sur ces dernières années, ces derniers mois, quand des joueurs ou des sportifs choisissent d'avoir uniquement un avocat, bah, parfois il y a des manques, et on a pu se rendre compte ces derniers mois que bah, un avocat s'est fait court-circuiter par un préparateur physique, parce que bah, l'avocat il fait pas la partie physique, mais s'il avait une personne qui gérait justement tous ces aspects là, il y aurait moins de soucis. Donc voilà, c'est une question d'équilibre, et c'est important de le trouver pour ton client surtout.
Ok, maintenant on va aborder la partie gestion de patrimoine. Comment se traduit votre rôle auprès des athlètes et des sociétés sur la partie gestion de patrimoine, même si vous en avez parlé un peu précédemment, mais vraiment sur cette partie de gestion de patrimoine?
Alors, moi déjà, il faut savoir, moi je suis avocat, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça, qui sont les gestionnaires de patrimoine,
okay.
Donc qui ont une spécialité peut-être plus bancaire, plus financière, et qui sont spécialisés dans la gestion de patrimoine. Et d'autant plus, certains sont spécialisés dans la gestion de patrimoine d'athlètes.
Okay.
Parce que les sources de revenus sont différentes, parce que le revenu stream, comme on dit aujourd'hui dans la Startup Nation, mais le revenu stream, il est un peu différent. Donc, il y a des gens qui sont vraiment spécialisés pour ça. Et moi, je travaille avec des gens qui sont spécialisés pour ça.
Okay.
Pour autant, effectivement, nous, on est le premier filet pour récupérer l'information auprès de l'athlète. Et pour le guider vers les bonnes décisions, à minima.
Okay.
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a des athlètes aussi qui n'ont pas nécessairement besoin d'un gestionnaire de patrimoine parce que les revenus qu'ils gagnent ne sont pas assez importants. Assez importants dans le sens où pour avoir besoin d'une telle compétence. Nous, en tout cas, comment on intervient ? L'idée, c'est de proposer à l'athlète des sources de diversification de ses investissements, des sources qui peuvent lui permettre de faire fructifier l'argent qu'il gagne, de l'investir, que ce soit dans des projets en dehors du sport, dans des projets dans le sport, Et là, nous, on intervient, d'une part, grâce à notre compétence juridique pour lui soumettre des projets de qualité, lui soumettre des projets qui peuvent être, comment dire, qui peuvent durer sur le long terme surtout. Et ensuite, nous, on va lui et là, on intervient aussi grâce à notre réseau. C'est-à-dire, okay. En tant qu'avocat, nous, on travaille avec des sportifs, on travaille avec des sociétés, et ça nous permet souvent de connecter les deux entre eux. Et l'idée, c'est de faire des mariages intéressants. Okay. Parce que moi, en tout cas, moi qui travaille beaucoup dans le digital et dans la technologie, c'est un sujet qui est très en vogue en ce moment. Et j'ai beaucoup, par exemple, de clients dans le digital et dans l'IT qui arrivent avec des projets assez intéressants pour lesquels ils ont besoin d'investisseurs. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant pour eux d'avoir affaire à des investisseurs différents, puisque le sportif, il a du mal à se mettre dans la peau de l'investisseur parce qu'il est sportif, parce qu'il n'a peut-être pas bénéficié d'une éducation, on va dire, post-baccalauréat ou une éducation, en tout cas, sur le long terme, spécifique au domaine bancaire, au domaine d'investissement, au domaine financier. Donc, ils ont du mal à se mettre dans la peau de l'investisseur. Okay. Eux, pour eux, ils sont sportifs, ils ont de l'argent et ils font confiance à des gens pour le dépenser. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de changer un peu cette mentalité-là, notamment avec Mamiura, avec les athlètes qu'il a. L'idée, c'est de leur faire comprendre que aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on est, ils sont des potentiels investisseurs autant que le banquier qui a un peu d'argent, le gars qui travaille en finance, le chef d'entreprise, le patron du CAC 40. Enfin, aujourd'hui, Kylian Mbappé, il gagne autant d'argent, voire plus, que Carlos Ghosn à l'époque, qui était le patron le mieux payé du CAC 40. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé, il n'a pas à souffrir de son statut de footballeur. C'est un potentiel investisseur.
Okay.
Donc aujourd'hui, nous, on intervient c'est dans ces deux cadres. Donc, présentation de projets de qualité et surtout mariage intéressant avec d'autres clients qu'on peut avoir.
Donc concrètement, vous avez un rôle de porteur d'affaires.
D'une certaine manière, oui, mais nous, toujours dans notre rôle, c'est-à-dire, nous, on ne prend pas de décision. On est avocat. Oui, c'est toujours intéressant quand on travaille avec des sportifs. Des footballeurs, mais aussi je pense à des combattants, par exemple. Même il a cité William Gomis, avec qui on travaille notamment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une marge de manœuvre qui est un peu plus large parce qu'ils nous font beaucoup confiance.
Okay.
Parce qu'on arrive avec, entre guillemets, le costume de l'avocat. Donc c'est vrai que ça nous donne du crédit, entre guillemets. Pour autant, nous on prend pas de décision. Nous on leur donne des recommandations, on présente des projets, on présente toujours le pour et le contre. En tout cas, moi c'est comme ça que je travaille. Et je recommande certains projets, mais je ne vais jamais prendre la décision à sa place.
D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà eu affaire à des sportifs qui délèguent tout, d'une certaine manière, et qui n'ont pas forcément d'œil sur vos actions ? Et est-ce que ça, c'est problématique ?
Bah, ça peut arriver, ça arrive souvent même d'ailleurs. Et c'est aussi une mentalité qu'on essaye de changer, puisque... Le sportif, finalement, il a son métier, c'est de jouer au football, jouer au basket. Il a son métier, et en dehors de son métier, de la même manière que moi j'ai le mien, en dehors de mon métier, j'ai des activités, j'ai des rentrées d'argent, j'essaye de porter des projets d'investissement, j'essaye d'investir mon argent. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de leur faire comprendre, notamment aux plus jeunes, et c'est toujours un peu compliqué, mais c'est de leur inculquer tôt le fait que ils sont sportifs, mais c'est pas des vaches à lait déjà d'une part, et c'est pas des cash machines non plus. Donc leur carrière, elle est très courte. Donc l'idée, c'est que le plus tôt possible, ils essayent de s'impliquer dans les projets qui vont faire fructifier leur argent, les projets extrasportifs. Donc nous, en tout cas, on essaie toujours d'être très pédagogue, c'est-à-dire leur expliquer le projet, leur expliquer les conditions dans lesquelles ils vont investir leur argent, les revenus qu'ils peuvent en tirer, les risques associés au projet.
Okay.
Et on essaye toujours de les impliquer au maximum dans la prise de décision, dans la gestion du projet, dans les rendez-vous. Et alors, oui, ils vont toujours nous déléguer une certaine partie parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils n'ont pas l'énergie, soit ils n'ont pas la bande passante mentale.
Okay.
Et nous aussi, on est justement là pour les défaire un peu de toute cette activité pour qu'ils puissent se concentrer sur le sport et se concentrer sur la performance sportive. Mais l'idée, c'est toujours d'essayer de les impliquer. Parce que moi ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un sportif qui vienne me voir au bout de 2 ans et qui me dise « Bah, où est-ce qu'il est passé mon argent ? Je comprends rien. » L'idée, c'est aussi d'avoir une... Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une relation pérenne avec le sportif et de l'accompagner de manière générale le plus longtemps possible, en fait. Que ce soit dans sa carrière et dans son après-carrière.
Okay. Je vais prendre un chiffre du Huffington Post. Mm-hmm. 50% des footballeurs se retrouvent ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. C'est un article qui date de 2017. En NFL et en NBA, les chiffres sont encore plus importants. Lorsqu'on entend que des sportifs multimillionnaires font banqueroute, comment on l'explique ? Est-ce que c'est dû justement au manque de regard sur la gestion, enfin le fait de déléguer, de trop déléguer, ou de toute manière un avocat il n'a pas totalement la main mise sur ça ?
Bah c'est dû, à mon sens, c'est dû à trois manques : manque de recul, manque de maturité et un manque de regard, comme vous le disiez, sur les activités qui sont les siennes, parce que donc manque de regard puisque parfois il délègue un peu tout sans trop regarder et peut-être aussi parfois à des gens qui sont pas compétents, ça peut arriver. Manque de recul parce que ils vont pas nécessairement avoir le recul et la compétence nécessaire pour évaluer si les projets qu'on leur propose sont de qualité ou pas.
Okay.
Et surtout ils ont ni le temps ni parfois l'envie. Et manque de maturité puisque c'est le monde du sport, il est assez particulier. On est face à des gens qui très jeunes ont intégré un cadre, le centre de formation. Et qui gagnent de l'argent très jeune. Je pense notamment surtout aux footballeurs.
Au football,
et c'est vrai,
ouais,
que ça, c'est un. En fait, vos chiffres, ils sont assez parlants, puisque plus on est dans une industrie qui rapporte de l'argent, plus il y a des risques de banqueroute derrière. Il y a moins de. J'ai pas les chiffres et je veux pas dire de bêtises, mais je suis sûr que ces chiffres, ils sont moins importants dans des sports où on gagne moins d'argent.
Okay.
Puisque forcément, quand on en gagne moins, on fait plus attention. Moi, je suis toujours un peu surpris de voir que des jeunes de 18 ans. Quand ils gagnent leur premier chèque, c'est d'un côté c'est marrant et puis de l'autre côté c'est pas si drôle que ça. Quand on se rend compte qu'ils dépensent des sommes astronomiques du matériel ou des choses on va dire futiles, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Souvent on est face à des gens aussi qui sont
issus de milieux
défavorisés. Donc oui, ça a forcément un attrait de dépenser de l'argent quand on peut enfin le faire. Pour autant, nous, notre but avec Mamie Bral, la manière dont on travaille et la manière dont moi je travaille avec mes clients, c'est de très tôt les mettre face à leurs responsabilités et très tôt les mettre face à des interlocuteurs qui vont les cadrer sur l'utilisation de leur argent, l'utilisation de leur image et sur les interlocuteurs qu'ils vont avoir et les partenaires à qui ils vont faire confiance. Donc ça amène souvent des discussions compliquées parce que c'est souvent les copains.
Ouais.
Donc ça, c'est souvent les copains qui demandent de l'argent. Pas qui demandent de l'argent, mais qui disent bah, « maintenant que tu en as, aide-moi à investir », etc., etc. Donc parfois, c'est des projets de qualité. J'en ai vu, des amis qui viennent avec des projets de grande qualité, d'autres un peu moins. Donc l'idée, c'est aussi d'encadrer un peu ces demandes. Et ensuite, c'est de faire prendre conscience aux sportifs que sa carrière, elle est courte, qu'elle est volatile aussi, parce que parfois, il y en a qui se blessent. Et en cas de blessure, bah, la carrière, elle s'arrête du jour au lendemain. Et l'idée, c'est justement pas qu'ils se retrouvent sur la paille dès que sa carrière elle se termine.
Okay. Toi, Mam, en tant que sportif, est-ce que tu as été témoin de ce genre de situation ? Est-ce que tu as pu voir, parmi peut-être les athlètes que tu as côtoyés, de près ou de loin, tu as pu voir ce genre de situation ?
Oui, j'en ai vu. Après, j'en ai vu, je l'ai vu et je l'ai même analysé lors de mon année de césure en finance. Il y a un joueur de foot que j'aimais beaucoup.
Okay.
Qui a fait une très belle carrière, qui a joué en Ligue des Champions. Et en fait, on avait son portefeuille client donc chez nous. Et j'ai vu ce qui lui restait. Et c'était pour moi limite impensable, tu vois, inimaginable.
Okay.
que quelques années après sa carrière, il soit dans de telles difficultés. Donc ça, c'était pour moi l'exemple le plus marquant. Après, bah, en tant que sportif de haut niveau, en ayant fait 3 Olympiades, bah, j'ai bien vu soit des athlètes qui étaient beaucoup plus talentueux, qui commençaient avec des contrats beaucoup plus importants que moi au début et qui n'ont bah, pas réussi à faire carrière et qui n'avaient pas forcément assuré en plus les études, donc aujourd'hui qui sont dans des situations correctes mais qui pouvaient sans doute peut-être prétendre à plus. Et après, moi, en exemple, c'est bah, les gens qui sont dans mon entourage et qui ont aussi pu réussir, c'est de dire, bah, ils se sont donné les moyens, il y a eu des moments importants, il y a eu des moments de crise aussi, il a fallu savoir le gérer, et l'accompagnement était aussi important, et de se rendre compte que j'aimerais pas que les gens qu'on a aujourd'hui dans notre portefeuille aient ce type de problématique, parce que Il faut préparer, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est avoir un coup d'avance, savoir dire non à certains moments, savoir dire oui à d'autres, savoir justement avoir un projet sur 1 an, 6 mois, 12 mois, voir les évolutions, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, sachant que dans ces méthodologies de travail, ce qui marche pour un ne marche pas forcément pour l'autre, et les revenus d'un ne sont pas les mêmes que l'autre. Donc tout ça, c'est vraiment un ensemble, et on travaille de fait, les informations, les médias, les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'exemples qui nous permettent de bien travailler, d'avoir la meilleure méthodologie de travail aujourd'hui pour tous. Okay. Et d'anticiper surtout.
Et cet argument sur la notion de milieu social, parce qu'effectivement, quand on n'a rien et d'un seul coup, on a tout, on a tendance à vouloir beaucoup dépenser. Ça, c'est quelque chose aussi que tu as constaté.
Bah oui, après, y a souvent deux sujets avec ça. On oublie beaucoup, c'est que on a des exemples, et des exemples qui sont assez marrants. Quelque chose qui est marquant et qu'on devrait peut-être mettre dans tous les centres de formation, c'est Alexander Song. Mm-hmm. Non, mais c'est un exemple qui est quand même incroyable, qui est drôle, mais ouais. Voilà, lui, il arrive, il a son premier contrat, il gagne un peu d'argent. Il voit la même voiture qu'un mec qui est une star mondiale du foot, et il se dit « je veux la même voiture ». Ouais. Et du coup, quand il se dit « j'ai la même voiture, c'est cool », en plus, comme c'est un footballeur, il peut la prendre à crédit, il est super content. Mais quand il voit que la moitié de son salaire passe dans l'essence, ah ouais, le mec il se dit « non, en fait, reprenez cette voiture, donnez-moi la petite voiture dans le coin, et comme ça passe ». Mais c'est ça, mais c'est une vérité dans le sport. Et dans le sport, c'est la même chose. C'est que quand tu as des résultats, t'es aussi beaucoup plus sollicité, tu vas dans des endroits, donc tu vas dans ces endroits-là, tu dis « ouais, je vais mieux m'habiller », comme t'as un peu d'argent, tu vas, je sais pas, dans une belle marque de luxe, et quand t'arrives, bah forcément, le mec qui a la marque de luxe, il dit « ah, il fait du sport, on va l'aider, on va lui proposer ci, on va lui proposer ça », et tu vas ressortir avec, une belle paire ou des beaux vêtements, et quand tu vas sortir de cet endroit-là, tu vas dire « ah ouais, je suis frais, ça, ça, ça ». Mais quand tu vas sur un événement, si tu mets une fois la paire que tu viens d'acheter, on va te réinviter à un événement 3 ou 4 jours après, cette paire-là, tu peux déjà plus la remettre. Donc du coup, c'est une problématique, et tu ne vas pas retourner encore dans ce magasin de luxe en disant « ouais, je veux cette autre paire ». Et il y a tout ça qu'il faut savoir anticiper. Il y a des techniques pour être bon aussi sur ça. Et bah, nous, on fait en sorte que nos clients n'aient pas ces soucis-là, parce que c'est important, savoir être présentable. Ça, c'est hyper important pour des sportifs, puisque les sportifs sont souvent catalogués « ah, ils ne savent pas trop s'habiller », etc. Ouais. Donc il y a aussi ça qui joue, et donc c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place, tout un package, toute une strate, et sur ça on est obligé.
Si d'autres jeunes nous écoutent, soyez vigilants sur ça. Maintenant on va un peu plus parler d'actualité. On entend pas mal d'infos et d'intox autour du transfert de Kylian Mbappé. C'est un peu le sujet qui capte toute l'attention. Il y a une rumeur autour de ce transfert. Il y a plusieurs rumeurs autour de ce transfert. Parmi elles, celle où son avocate lui conseillerait de signer au Real Madrid pour passer un certain cap, devenir une superstar, et passer un cap au niveau de l'image. Déjà, quels arguments un avocat mettrait en avant pour prodiguer un tel conseil à Mbappé? Quels arguments, au-delà de l'aspect sportif?
Alors déjà, sur le transfert d'Mbappé, moi j'ai une info exclusive, c'est que je sais absolument pas où est-ce qu'il va aller. mais en tant que, bon, moi je suis très fan du PSG, donc je serais ravi qu'il reste. Pour autant, donc, on va parler de manière objective, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'est une superstar mondiale, donc il a un profil que très peu de joueurs ont, finalement, parce qu'il y a peut-être que Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, peut-être Zlatan, mais le reste des joueurs, personne n'est à leur niveau, en fait. Donc lui, aujourd'hui, il a un luxe que ne peuvent se payer que très peu d'athlètes, c'est-à-dire qu'il a le luxe du choix sur tous ses partenaires, sur toutes les marques qui vont l'accompagner, et sur tous les clubs sur lesquels il veut aller. Lui, typiquement, et je pense que c'est aussi le problème, c'est la jurisprudence Mbappé, c'est le problème dans le foot, c'est que Kylian Mbappé, il peut se permettre de n'avoir qu'une avocate, parce que les offres, elles vont venir à lui. C'est-à-dire que lui, dès qu'il avait 8 ans, c'était a priori sûr et certain qu'il allait terminer à minima au Real.
Okay.
Donc lui, il peut se permettre d'avoir qu'une avocate parce qu'il n'a pas nécessairement besoin d'agent. Le rôle de l'agent, c'est d'aller prospecter. Lui, il n'a pas besoin de prospecter, les offres, elles viennent à lui. beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent reproduire ce format-là. Malheureusement, ils n'ont pas tous le talent d'Mbappé. Ils n'ont pas, ils n'ont pas non plus vocation à l'avoir. Il y a très peu de joueurs qui ont vocation à avoir ce talent-là. Donc, pour revenir à votre question, aujourd'hui, en tant qu'avocat, et Delphine Vereden, qui est un confrère de qualité, qui mène ce dossier-là, je pense qu'elle a, elle a raison quand elle dit que aujourd'hui, un des grands enjeux pour les sportifs, c'est aussi la gestion de l'image. Lorsqu'on est athlète et notamment footballeur, il y a deux sujets en fait qui se posent. Il y a l'image personnelle du joueur, il y a l'image au sein de l'association sportive et il y a l'image collective.
Okay.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, un des grands débats, et on le retrouve souvent dans les négociations de contrats avec les clubs, c'est à qui appartiennent les droits d'image du joueur et qui peut les utiliser.
Okay.
Donc, comment on les utilise, qui peut les utiliser et qui récupère l'argent sur l'utilisation de cette image-là. Donc ça, c'est vraiment les trois questions. Et on se rend compte aujourd'hui que Mbappé, il est dans une position de force vis-à-vis des clubs pour réclamer 100% des bénéfices, ou en tout cas une part importante des bénéfices que le club va tirer, que le club lui-même va tirer de l'utilisation de son image au sein de l'association sportive.
Okay.
Donc ça, c'est un débat que malheureusement, beaucoup de joueurs ne peuvent pas se payer le luxe d'avoir. Mbappé, lui, il peut le faire. Donc aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis du Real ou du PSG, lui, il est en mesure aussi de parce que les négociations de contrat, finalement, le salaire, c'est important. Je pense que lui, c'est plus une question d'argent pour lui, parce que dans tous les cas, il va gagner beaucoup d'argent.
Mmh.
Mais c'est aussi une question de comment son image est utilisée, par qui et combien elle rapporte. Et je pense que c'est sur ce point-là que va se cristalliser les négociations extra-sportives, puisque sur le sportif, ce sera à lui de décider si il préfère aller au Real Madrid ou il préfère marquer l'histoire à tout jamais du Paris Saint-Germain. Mmh. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. mais ça, ce sera une décision qui lui appartient à lui et à sa famille. Mais pour ce qui est de l'extra-sportif, je pense que c'est sur ce point-là que vont se cristalliser les discussions. Et c'est déjà le cas d'ailleurs en équipe de France, puisqu'il y a eu le grand débat en équipe de France de l'utilisation de l'image des sportifs et notamment des marques partenaires de l'équipe de France que Mbappé a refusé, notamment parce que c'était soit des paris sportifs, soit des marques qui font la promotion de plats, ou il me semble que c'était McDonald's, pour pas citer de marque, mais en tout cas des plats qui sont lui, Mbappé, il est très impliqué dans la nourriture saine.
Mm-hmm.
Donc c'était des marques qui font la promotion de nourriture un peu différente, donc lui, il avait envie en tout cas de rester cohérent dans l'utilisation de son image. Il a refusé de participer aux opérations marketing de l'équipe de France. Et Delphine Vereden est montée au créneau, justement, dans l'équipe, en disant qu'il fallait revoir les conditions d'utilisation d'image des joueurs qui étaient sélectionnés en équipe de France. Et je pense que c'est un bon point. Et c'est la preuve que c'est sur ça que vont se cristalliser les discussions de Mbappé, mais aussi des autres joueurs dans le futur. Je pense à Pogba également, qui avait eu ce débat-là avec Manchester United.
Okay.
Donc c'est un débat qui va se poser de plus en plus.
Et si, par exemple, une institution est contrainte de céder ses droits à l'image-là, où est-ce que va se faire le retour sur investissement ?
Bon, le retour sur investissement, il se fait de toute manière à partir du moment où Mbappé il arrive au Real Madrid. Le retour sur investissement, il se fait économiquement.
Mmh.
Tout le monde y trouve son compte.
Okay.
Je pense que l'utilisation de l'image du joueur, c'est une partie importante des revenus que peut tirer un club du profil du joueur. Et je pense que c'est pour ça, notamment, que les négociations durent ou traîne avec Madrid ou avec le PSG. Maintenant, qui laissera la main sur la totalité de l'image d'Mbappé aura peut-être va peut-être gagner cette bagarre entre clubs. Je pense que c'est un des points les plus importants. Je suis pas sûr honnêtement que ce soit la source de revenus principale pour le club, mais c'est une source de revenus importante, et c'est aussi un point de vente, un argument de vente important pour le club pour récupérer des partenaires.
Okay.
Puisque le partenaire, que ce soit une crème pour le corps ou un service de livraison de plats, s'il peut intégrer Kylian Mbappé dans ses publicités, pour eux, c'est un argument important. S'ils peuvent pas, c'est un argument qui est différent, du coup.
Bien sûr. Ok. Avec tous ces arguments-là, selon vous, comment on construit une grande carrière pour un athlète? Je parle au-delà de l'aspect sportif. Comment se construit une grande carrière pour un athlète ?
Moi, je pense que les différents arguments sont le changement. Je pense que ce qui s'est fait pendant très 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 longtemps, et je pense pas que de base Kylian Mbappé évolue, avoir la vocation d'être un game changer, mais la réalité, c'est qu'il a des droits, il a ses devoirs. Donc ses devoirs, c'est qu'il doit fournir un résultat à son club, être performant, mais tout ce qui est hors du terrain doit être changé, entre guillemets. Okay. Et il y a beaucoup de choses qui étaient mises en place il y a 10-15 ans, et ça doit le faire. Les équipementiers aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de sponsors qui sont un peu des chevals de Troie pour pouvoir toucher ce type de profil. Et Mbappé, il le sait très bien. Aujourd'hui, il arrive dans un moment où il y a une évolution qui est incroyable. Les réseaux sociaux, les revenus aussi qu'engendrent les réseaux sociaux, les sponsors et autres. Et lui, il veut faire valoir ses droits. Et c'est ça que je trouve assez, entre guillemets, assez honorable, puisque c'est hyper important de pouvoir défendre ses intérêts, et son avocate est dans son rôle. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui doit sortir de tout ce qui est en train d'être mis en place, c'est que qui peut utiliser mon image et pourquoi, comment. Il n'avait pas eu de soucis pour certaines marques via son club, et aujourd'hui il peut se défendre de changer les choses.
Tu as parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelle place occupe la data dans la négociation d'un contrat?
Je pense que la data, elle est importante pour le sponsor. Parce que le sponsor aujourd'hui, miser de l'argent ou sponsoriser ou mettre un produit à dispo d'un sportif, c'est les ventes qui vont être intéressantes. Mmh. Et aujourd'hui, il y a des problématiques. C'était, par exemple, en athlétisme, on vend plus une paire de running qui va être utilisée tous les jours par des runners, qu'une paire de pointes qui va être utilisée uniquement sur dans un domaine spécifique qui est la piste. Mmh. Donc ça, moi je le comprends, mais d'autres personnes ne le comprennent pas, parce que quelqu'un qui fait du marathon, par exemple, on regarde un peu moins le marathon que le premier sport olympique et l'athlète lors des JO. Mais les JO, c'est tous les 4 ans, donc l'économie et le système est complètement différent. Donc il y a tout ça qu'il faut engendrer, tous ces facteurs-là. C'est vrai qu'avec Sport Stratégie, nous, on se rend compte de beaucoup, beaucoup de choses, et avec tous ces acteurs du sport ou de manière générale qui ont un réel impact en termes de sponsoring. C'est ça qu'il faut voir. Et une personne ne le voit pas forcément en disant pourquoi il va là. Il faut aussi comprendre pourquoi une marque mise tant d'argent sur un sportif. Pourquoi le contrat d'un attaquant est plus important que le contrat d'un défenseur, par exemple. Il y a des personnes qui ne le comprennent pas forcément, mais pourtant il y a du sens. Un attaquant marque des buts, un attaquant a plus de temps à la télé qu'un défenseur, ou du moins le défenseur le sur un match. Sergio Ramos ou Marquinhos a moins de visibilité que Kylian Mbappé.
Ouais.
Et pourtant, si le PSG gagne 7-8-0 contre Clermont, ça sera le cas. Pourtant, le PSG, quand il joue contre Benzema, si c'est le Real qui a l'avantage du ballon, il y aura plus de temps de télé pour Marquinhos et Sergio Ramos, parce qu'ils vont être au marquage de Benzema. Et ça compte aussi. Donc ça, c'est beaucoup de facteurs qui vont changer en fonction des situations. Et ça, il faut savoir l'intégrer dans le système du sponsoring sportif et du marketing, parce que ça joue énormément.
Ok. Quelque chose à ajouter, maître?
Ouais, aujourd'hui, grâce à la data, on a un flot de données qui est impressionnant et qui est décuplé par rapport à ce qu'on avait même il y a 5 ans. Donc ça permet en fait de vraiment identifier au détail près les sources et les conséquences de l'utilisation de l'image d'un joueur, d'un sportif, et dans quel cadre on va être à même de tirer le plus de profit de son image. Et ça rejoint finalement le débat qu'on avait tout à l'heure, qui est de dire qu'aujourd'hui la partie importante pour le joueur, c'est d'arriver à contrôler son image. Donc contrôler les partenaires, contrôler son exposition, contrôler le cadre dans lequel son image va être utilisée. Et donc finalement, la data, elle permet tout ça pour les marques, mais elle permet tout ça pour le joueur également. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et ce qui n'était pas possible il y a 10-15 ans, c'est qu'on a de plus en plus de joueurs, de sportifs, qui, pour maîtriser leur communication, pour maîtriser leur exposition marketing, vont prendre en charge eux-mêmes les moyens de communication. Ils vont prendre en charge eux-mêmes les sources de l'utilisation de l'image, et ils vont développer eux-mêmes des structures leur permettant soit de contrôler leur image, soit des structures leur permettant de se mettre en avant eux-mêmes. Je pense à Griezmann, je pense à Gérard Piqué, LeBron James, à une plus petite échelle, Abdou Diallo par exemple, ouais, du PSG. Donc ça, c'est des belles initiatives. et ça permet aussi de montrer aux plus jeunes et à ceux qui vont arriver dans ce secteur d'activité que la gestion d'une carrière de manière extrasportive, la gestion d'une carrière, elle se fait sur l'encadrement de qualité, l'éducation aussi qu'on reçoit, que ce soit familial, personnel ou à l'école ou de manière générale, ou l'éducation qu'on a envie de se donner aussi de soi-même, et également le contrôle de son image et le contrôle de ses actions.
Ok. Maintenant, j'aimerais aborder des sujets un peu moins fun, on va dire. Mm-hmm. Si, par exemple, un sportif dérape, un sportif que vous représentez dérape, son équipe de communication va gérer tout ce qui, tout ce qui concerne la com. Mais si, par exemple, un sportif est accusé de viol, il y aura certainement des contrats de partenariat qui vont se rompre, ce genre de choses qui vont s'annuler. Comment, quel sera votre rôle à ce moment-là?
Alors, bon, le rôle, il est double. Là, il y a un rôle qui est judiciaire et il y a un rôle qui est juridique vis-à-vis des contrats et vis-à-vis de la gestion des contrats et des relations que le sportif avait avec des marques, des partenaires et des sponsors. Donc, pour la partie judiciaire, bah, ça, c'est le rôle classique de l'avocat, mmh. C'est-à-dire défendre les intérêts de son client au tribunal. Ça, après, c'est la loi, entre guillemets, du tribunal qui prime. Donc, nous, on a un dossier, on défend notre client, on traite le dossier auprès du tribunal, ou que ce soit un procès civil, donc auprès du tribunal judiciaire, ou un procès pénal. Et ensuite, on va avoir la gestion plus juridique de toutes les relations contractuelles que le joueur va avoir avec ses partenaires. Et là, en fait, quand vous disiez tout à l'heure, donc il y a un certain nombre de contrats qui vont être rompus. Tout ça, c'est pas automatique. Tout okay. ça se fait parce que c'est prévu dans le contrat. Le principe d'un contrat, c'est que on va prévoir toutes les situations possibles. On va prévoir juridiquement les issues en cas de dans le cas où un certain nombre d'événements se présentent. Donc okay. là, en l'occurrence, dans un contrat, il y a toujours une clause qu'on appelle de résiliation. Cette clause de résiliation, elle comporte un certain nombre d'éléments, notamment donc, une résiliation qui s'appelle une résiliation pour faute. Donc en cas de faute d'une des parties, avec un certain nombre de critères et dans un certain nombre de conditions, on va pouvoir résilier le contrat, okay. une ou l'autre partie. Ensuite, il y a également souvent pour des clients des résiliations qu'on appelle sans faute, donc qui permettent aux clients de sortir du contrat plus ou moins quand ils veulent, sous réserve de respecter un préavis. Et ensuite, il y a une résiliation qui est immédiate dans un certain nombre de cas identifiés par les parties. Okay. Le contrat, c'est la loi des parties. C'est-à-dire que nous, dans un contrat, on peut mettre entre guillemets ce qu'on veut, pour autant que ce soit accepté par les deux parties et convenable et que ça respecte l'ordre public. C'est-à-dire okay. que si moi, j'ai envie de si j'ai envie de contracter avec vous et j'ai envie de décider que si vous portez des chemises bleues, je romps le contrat parce que c'est important pour moi et vous l'acceptez, auquel cas, à la première chemise bleue que vous portez, on rompt le contrat. Terminé. Okay. Donc là, en l'occurrence, dans les contrats de sponsoring, une des clauses qui est quasi automatique, c'est que dans le cas où le joueur se rend coupable d'un certain nombre de faits qui vont porter atteinte à l'image de la marque que va représenter le sportif et qui paye le sportif, le contrat sera résilié automatiquement. Ce qui est compréhensible d'un point de vue société, puisque en tant que représentant de la marque et moi, pour m'être déjà retrouvé du côté de la société qui représente un sportif et qui paye un sportif, okay. il est évident que les actions du sportif vont avoir un impact sur la... Si le sportif il est placardé sur tous les arrêts de bus avec la marque de mon client, il est évident que des actions néfastes de ce sportif-là vont porter préjudice à la société que je défends. Et il est impératif pour mon client de se séparer le plus rapidement possible de cette personne-là.
Ok. Bah, je vais poursuivre sur des aspects plus liés à l'éthique. Il y a quelques années, la sprinteuse Alison Felix, elle dénonçait l'attitude de son équipementier au vu de sa grossesse. Est-ce que, par exemple, dans des clauses contractuelles, on peut retrouver une clause stipulant qu'une femme n'a pas le droit de tomber enceinte sous peine de voir son contrat rompu?
Alors là, c'est un peu délicat parce que Alison Felix, déjà, elle est soumise, si elle est américaine, c'est ça?
C'est ça.
Elle est soumise au droit américain. Donc le droit, en fonction de l'État dans lequel elle a signé son contrat, le droit il peut être différent. Et il faut savoir que les Américains ils sont très particuliers. Leur droit et la latitude juridique qui se laisse, elle est très particulière. Surtout sur les questions de grossesse, d'avortement, etc. Ça, l'actualité, elle vous l'a prouvé récemment. Donc, en tout cas, en France et de manière générale, il y a un certain nombre de clauses qu'on ne peut pas inclure parce qu'elles contreviennent à l'ordre public. En revanche, il y a, comme je le disais tout à l'heure, le contrat, c'est la loi des parties. C'est-à-dire que tant que les clauses sont acceptées par les deux parties, on ne peut plus les remettre en cause ensuite. Et c'est là qu'en fait, l'avocat intervient. Et c'est pour ça qu'il est impératif pour un sportif d'avoir un accompagnement juridique de qualité. Parce que lorsqu'on fait revoir des contrats par des gens qui ne sont pas avocats dans un premier temps, on peut louper ce genre de clause. Ou alors, on peut perdre l'opportunité d'avoir quelqu'un qui va monter au créneau, qui va remettre en question un certain nombre de clauses, et qui va du coup prendre la défense du sportif, le représenter dans les négociations, ce que potentiellement le sportif ne pourrait pas faire parce qu'il s'agit de négociations très juridiques, donc il n'a pas les compétences pour le faire, ou alors parce que en tant que sportif, il n'a pas nécessairement envie de se mettre à dos le sponsor. Parfois aussi, on est dans des relations de force.
Okay.
Quand il s'agit de gros équipementiers qui contractent avec un jeune sportif, souvent on est dans un rapport de hiérarchie, dans un rapport de force. Les sportifs, souvent, ils acceptent un cadre juridique qui, à mon sens, n'est pas conforme, premièrement, à l'éthique, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui, de toute manière, n'est pas juste. Pour autant, ils l'acceptent quand même.
Okay.
Je pense notamment, il y avait un... Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais il y avait une histoire qui racontait que Nike, à l'époque, dans le tennis, lorsqu'il signait des nouveaux joueurs, il montrait le contrat de Federer qui n'avait jamais été renégocié.
Okay.
Donc c'était un de ses premiers contrats, donc un contrat assez faible au niveau de ce qu'il touchait pour représenter la marque, pour porter l'équipementier Nike. Et il leur disait, est-ce que tu penses que tu vaux plus que Federer? Donc évidemment les jeunes joueurs ils disaient bah non, donc on signe. Quand Federer il a appris ça, évidemment il s'est empressé de renégocier son contrat. Et c'est la preuve que parfois aussi il y a des rapports de force qui sont à mon sens inacceptables.
Et dernièrement aussi il y a eu l'affaire Kurt Zuma. Il y a plusieurs sponsors qui ont rompu leur contrat avec le joueur parce que le comportement n'a pas été en accord avec l'image de la marque. Mais il y a aussi de nombreuses associations qui sont montées au créneau pour demander le licenciement du joueur. Est-ce que légalement, c'est une action qui aurait pu être faite?
Alors, le licenciement du joueur, il peut être prononcé que par le club, que par son employeur.
Okay.
Donc ça, c'est du droit du travail. Et il n'y a que l'employeur qui est habilité à licencier un employé. Donc ça, c'est la décision. La décision, elle appartient à West Ham, c'est ça?
Ouais.
La décision, elle appartient à West Ham et uniquement à West Ham. Donc aucune association. Donc les associations, ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Seul le club est habilité à prendre cette décision-là. Donc, ensuite, le rôle des associations dans ce genre de circonstances, c'est aussi de faire pression. C'est leur rôle et c'est leur but aussi, c'est de faire pression sur le club pour justement arriver à forcer le club à prendre cette décision. Mais juridiquement, il n'y a que le club qui peut le faire. Ensuite, pour ce qui est des contrats, il y a une certaine logique. Le joueur, il se rend coupable, en plus auprès du grand public, d'actions qui sont contraire à l'ordre public, il y a de la maltraitance animale en fonction de ce que décide le juge, si jamais il y a une action qui est portée devant les tribunaux, mais la marque en elle-même, en fonction de ce qui est prévu dans le contrat, et en général, quelque chose comme ça, c'est suffisamment grave, c'est une faute qui est suffisamment grave pour être pour que la marque, elle puisse actionner la clause de résiliation. Donc c'est compréhensible. Après, pour ce qui est de le licenciement du joueur, ça, comme je le disais, il n'y a que le club qui est habilité à le faire.
Ok, ben, merci pour toutes ces réponses. On arrive à la fin de ce podcast. Merci maître de nous avoir honoré de votre présence. Merci à toi Mam.
Merci à toi.
Et merci à toi, tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Business Club. À bientôt.
Merci à vous deux, à bientôt.